Les médias, pour moi, c'est
des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Les élèves d'interclasse sont désormais bien connus dans les couloirs de Radio France et sur France Inter, où chaque été, depuis maintenant 3 ans, ils partagent l'antenne avec les professionnels de la radio. Depuis septembre 2015, ils fréquentent les studios, s'installent au micro et s'expriment sur notre société, la politique, leur avenir, leur quotidien. Les collégiens et les lycéens d'interclasse grandissent dans des quartiers défavorisés, des quartiers que la presse évoque le plus souvent lorsqu'il s'agit de traiter de faits divers, policiers agressés, voitures brûlées, bavures, trafic de drogue, un prisme réducteur qui entretient la stigmatisation. Interclasse, le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter, leur offre une toute autre visibilité en leur permettant de s'exprimer, de donner leur point de vue, de prendre la parole et de découvrir d'autres réalités, d'autres horizons. Cette année, les trois mots qui cimentent notre devise républicaine ont rythmé les séances d'interclasse. Liberté, égalité, fraternité. Que signifient ces mots lorsqu'on a 16 ans et que l'on grandit à Aulnay-sous-Bois, à Saint-Denis, Sarcelles, Grigny ou Paris 19e? Que signifient ces mots lorsqu'on nourrit une immense défiance à l'égard de la classe politique et de l'univers des médias et que l'on s'informe les yeux rivés sur son portable où la désinformation côtoie les reportages des rédactions professionnelles? Pour les aider à faire la part entre le vrai et le faux, les journalistes et producteurs de France Inter ont travaillé main dans la main avec les équipes pédagogiques et avec nos trois partenaires, le CLEMI, l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine et la Fondation de France. Bonjour à tous, vous écoutez France Inter.
Interclasse saison 3,
c'est parti !
Les ados font de la radio comme des pros
sur France Inter.
Le naturel de Plantu nous a frappés ainsi que son enthousiasme. Il nous a accueillis comme si nous étions ses amis.
Chaque fois que j'ai la chance d'avoir des contacts et des rencontres avec des jeunes, vous n'imaginez pas à quel point je vais des fois dans des classes où les jeunes ils pensent que je vais faire un cours ou je vais leur apprendre quelque chose. En fait, c'est moi qui apprends, par vos questions.
Extrait de l'un des reportages que nous allons écouter dans cette première émission Interclasse de l'été. Nous avons demandé cette année à chaque classe de faire des interviews en s'inspirant de l'un des mots de la devise républicaine. Et cet après-midi, nous vous proposons d'écouter le travail des élèves de la première L du lycée Voilôme d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour à toute la classe avec nous dans ce studio. Alors, autour de la table, Metuna, Alassane, Gehan, Assila, Steven, c'est vous qui présenterez les reportages réalisés avec vos camarades. Et également devant les micros, Chloé, Badre, Mambé, Kevin, Léa, Riab, Lauriane, Kodou, qui sont venus débattre et nous parler de leur quotidien et de leur vision de la société. Également présents dans ce studio, vos professeurs, Ariane Lacasse, Delphine Rancillac, Rémi Magnani. Et à vos côtés, Vincent Pellegrini, journaliste à la direction des sports de Radio France, Yann Gallic, journaliste à France Inter, Patricia Martin, productrice et animatrice à Inter, Franck Olivard, attaché de production de l'émission La Marche de l'Histoire, et Valentine Rowe, étudiante à l'Institut pratique du journalisme.
Liberté,
égalité,
fraternité.
Liberté, égalité, fraternité.
La devise républicaine est une source inépuisable d'inspiration pour faire des reportages et au cours de cette heure, chers auditeurs, nous irons au Centre international de la CIMADE de Massy, la CIMADE qui vient en aide aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Nous ferons un tour à l'Assemblée nationale pour voir si la liberté vestimentaire est de mise chez les parlementaires. Nous rencontrerons Plantu avant d'aller à Sciences Po. Mais d'abord, direction Aulnay-sous-Bois, votre ville.
Salut, bien ou quoi les gens, moi c'est Alassane, avec mes potes, je vais vous présenter ma ville, Aulnay-sous-Bois.
Hey, moi c'est Mambé, j'habite à Aulnay et c'est grave stylé. On est tous mélangés, blanc, noir, arabe, asiatique, timal. Mélanger plusieurs cultures, on trouve ça normal, rayayay.
Moi c'est Kodou, ma ville c'est Aulnay-sous. Vous ne savez peut-être pas, mais à Aulnay, on est beaucoup, plus de 80 000. Vous ne trouvez pas ça fou? Je vais vous apprendre quelque chose entre nous. Vous savez pourquoi on l'appelle Aulnay-sous Bois? Parce qu'avant c'était une forêt sans tour ni toit. Aujourd'hui, une frontière divise notre ville en deux, au nord les cités, au sud les zones pavillonnaires. Pourtant, Aulnay ne peut que vous plaire. S'il vous faut une guide, je serai heureuse de le faire. Être aulnaisienne, j'en suis fière.
Malgré certains préjugés, étant jeune de banlieue, nous sommes parfois marginalisés. Notre ville est très souvent mal vue et dégradée. Mais tout cela n'est pas la réalité. J'habite à Aulnay depuis 17 ans et je peux vous dire que c'est une ville vraiment très vivante. Pour moi, c'est la meilleure ville du 93. Les habitants ici, ils pèsent.
Ici, on ne se prend pas la tête, on veut juste profiter de notre jeunesse. Les gens disent souvent qu'on est insolent, mais tout ça, c'est faux, on est très souriant. Venez nous voir et vous verrez par vous-même combien on s'amuse et combien on s'aime.
C'est encore moi, Alassane Donnet Soubois. Parmi mes passions, il y a le sport où participer est mieux qu'être plus fort. Le sport, on le pratique avec rage et effort. On a 4 gymnases avec des sports qui sont loin d'être nazes. Ne croyez pas les préjugés, on n'a pas tous déjà été jugés. Ça ne risque pas d'arriver. Chez nous, la fraternité, c'est la valeur de la cité.
Merci pour ce portrait d'Aulnay Soubois. Alors Alassane, tu as terminé par l'une des valeurs de votre cité, c'est la fraternité. À part cette valeur qui est si importante, lesquelles font partie également de votre quotidien ?
La solidarité.
Et elle se traduit comment ?
En fait, comme j'habite dans une cité, on se connaît presque tous. Et on est tous des frères, même si on n'a pas les mêmes parents. On s'entraide.
Alors à côté de toi, il y a Mambé qui hoche de la tête pour dire « oui, oui, je suis complètement d'accord ». Alors oui. Mambé, quelle vision toi tu as de ton quartier et des valeurs qui y sont ?
Il y a aussi le respect, le respect des jeunes envers les plus vieux. Par exemple, on aide les vieux à apporter leurs courses, à ranger leurs affaires dans leur maison.
Chloé, quelle image les médias donnent d'Aulnay-sous-Bois ?
Je trouve que quand on parle d'Aulnay sous bois, on parle que de la drogue et la délinquance, alors qu'il y a autre chose derrière. Par exemple, nous qui sommes à France Inter, on n'est pas des délinquants, nous sommes des jeunes normaux et je pense qu'il faudrait faire voir ça aussi.
Alassane, certains élèves d'interclasse ont parfois qualifié leur quartier de ghetto, parce qu'ils trouvent que pour eux c'est difficile d'en sortir. Est-ce que c'est un point de vue que tu comprends ou pas ?
Pour certaines personnes, oui. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. En fait, on peut s'en sortir, on peut sortir du ghetto, comme ils disent. Mais pour ça, il faut bosser, il faut travailler. Sans le travail, on ne pourra pas en sortir, c'est vrai. Mais c'est possible.
Votre quartier, c'est celui du lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois. Nous allons écouter tous vos reportages. Mais d'abord, place à la musique avec un morceau de votre choix, Drake, God's Plan.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub. I even got it tatted on me. 81. They'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Ay. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yup, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah.
c'était Drake, God's Plan, le choix musical des élèves d'interclasse du lycée Voilôme d'Aulnay-sous-Bois.
Interclasse.
On est déter.
Oh my god.
Sur France Inter.
Les exilés, c'est le titre du premier reportage de la saison 3 d'Interclasse. Mais tu n'as, avec tes camarades Claire, Riab, Léa, Lucas et Johnny, quel mot de la devise avez-vous choisi?
On a choisi la liberté parce que les réfugiés ayant fui leur pays ont été persécutés pour avoir exprimé haut et fort leurs opinions politiques. Ils n'ont donc pas la liberté de retourner dans leur pays d'origine. Ils risquent de se faire tuer.
Alors c'est vrai que la France a enregistré un peu plus de 100 000 demandes d'asile en 2017, un niveau historique, mais seuls 36% d'entre elles ont abouti. Et pour de nombreux migrants, la France reste le pays des droits de l'homme et des libertés, même si le statut de réfugié est difficile à obtenir. Direction Massy, au centre international de la CIMAD qui accueille les réfugiés.
Au premier coup d'œil, ça ressemble à une maison ordinaire avec un petit jardin. Il s'agit en réalité du plus ancien centre d'accueil pour les réfugiés en France. Il a été créé dans les années 60.
On a vu passer des générations et des générations de personnes réfugiées de plein de pays différents. Dans les années 70-80, c'était les réfugiés des dictatures latino-américaines. Après, il y a eu des réfugiés de la place Tiananmen. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu assez historique.
Ce centre est géré par la CIMAD, une association d'aide aux réfugiés. Nous suivons Sonia Laboureau, la responsable de ce lieu, qui accueille environ une vingtaine de nationalités.
Là, vous êtes devant l'entrée du centre. Donc, c'est une vieille maison bourgeoise. Et derrière, il y a un foyer qui accueille 75 personnes réfugiées, donc placées sous la protection de la France. Et puis nous, avec notre équipe de salariés et de bénévoles, et bien, on est là pour les aider, les accompagner, faire en sorte que quand ils quittent le centre, eh ben, ils ont un toit sur la tête, un travail, ils ont de quoi se débrouiller tout seuls dans leur vie en France. On les aide à se reconstruire en fait.
Toutes les personnes hébergées ici ont fui leur pays à cause de la guerre ou à cause des persécutions liées à leurs opinions politiques, leur religion ou leur orientation sexuelle. Ces réfugiés ont obtenu l'asile en France, comme Sandra qui est originaire de la République démocratique du Congo. Elle a dû s'exiler car elle était une opposante politique, emprisonnée et menacée de mort à cause de ses idées.
On avait organisé une marche pour revendiquer nos droits. Il y a eu des morts le jour des manifestations. Et moi, j'étais parmi les gens qu'on était arrêtés. Mes amis étaient tués et moi, j'étais évadée en prison. Je ne peux plus retourner dans mon pays, sinon ils vont me tuer.
Arrivée en France en mars 2015, Sandra a attendu plus d'un an avant d'obtenir le statut de réfugiée. Elle est venue ici, seule, sans ses quatre enfants. Aujourd'hui, Sandra se bat désespérément pour qu'ils puissent la rejoindre.
Il y a mes enfants qui sont au pays avec les troubles politiques. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. C'est trop cher. Donc mes enfants sont à la maison avec ma mère qui est âgée. Donc les enfants, tout le temps, ils pleurent au téléphone. Maman vient nous chercher. J'avais choisi la France parce que la France, c'est un pays bien. C'est un pays des droits de l'homme. C'est un pays qui dit qu'égalité, fraternité, liberté, etc. Mais je suis un peu déçue. J'avais déclaré mes enfants. Mais là, je n'arrive plus à comprendre la France parce qu'ils m'ont accepté ici comme réfugiée. Ils n'arrivent pas à répondre à mes droits. Sans mes enfants, je ne peux pas vivre comme il faut.
Sandra a même écrit au président de la République, Emmanuel Macron, dans l'espoir de débloquer la situation.
Ce sont mes enfants biologiques. Ils voient bien que ce sont mes enfants, mais ils ne veulent pas donner les visas. Moi, c'est mon droit, je revendique mon droit, que mes enfants viennent à côté de moi. Si on t'accepte comme réfugié, ta famille doit te rejoindre. La France, s'ils ne veulent plus accepter les réfugiés ici, qu'ils soient clairs, au lieu de me faire marcher, de me faire mal.
Sonia Laboureau, la directrice du centre, nous explique que les démarches sont de plus en plus difficiles pour les réfugiés.
Les personnes qui sont réfugiées, elles ont le droit de faire une demande de réunification familiale, de faire venir leur famille. Et on se dit, c'est un peu logique, ils sont sous la protection de la France, on se doute bien que leurs enfants, ils sont quand même en danger là-bas ou un peu menacés. Donc ça doit être rapide. Eh ben non, malheureusement, c'est très très long, très compliqué de les faire venir. Ça, c'est pas normal. Si on protège une personne, on doit pouvoir protéger toute la famille.
C'était un reportage de Claire Dormeus,
Léa Ruissi, Métuna Saint-Valentin,
Lucas Cipolla, Johnny Evora,
Ria Brimont.
Les exilés, un reportage réalisé avec l'aide de Yann Gallic, grand reporter à la rédaction de France Inter. Et on en parle avec Métuna, Riab et Léa. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat?
Oui, très. C'était vraiment intéressant et on a découvert comment
les journalistes travaillent. Donc voilà.
Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la fabrication d'un reportage ?
C'était plutôt d'avoir 3 minutes juste pour le total de l'interview parce que, en fait, on a enregistré, il y avait des parties plus importantes que moi j'ai trouvé que c'était important de faire écouter aux autres. Puis après, quand j'ai entendu avoir 3 minutes en total, j'étais
Oh. Ça va être difficile.
Oui, grave. Mm.
Metuna, qu'est-ce que vous avez souhaité montrer à travers ce sujet consacré aux exilés ?
Alors, on a tout d'abord voulu faire passer un message. Par exemple, Sandra, c'est une immigrée du Congo. Elle nous parlait de son parcours difficile et de sa situation. Et elle souhaite toujours que ses 4 enfants viennent la rejoindre en France. Mais ce n'est pas possible. Donc, elle avait envoyé une lettre au président Emmanuel Macron pour faire venir ses enfants en France.
Léa, est-ce que c'est une réalité que tu percevais avant d'aller sur le terrain ?
Pas vraiment, parce que du coup, pour moi, les immigrés venaient tous en même temps avec tout ce que je voyais avec tout ce que les médias montraient. Je pensais qu'ils venaient tous en même temps et qu'après, ils essayaient de trouver des solutions, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Là, ils viennent, comme Sandra, elle est venue toute seule, il faut qu'elle attende. Elle a attendu longtemps avant d'avoir le statut de réfugiée. Là, elle attend encore pour avoir une autorisation pour faire venir ses enfants. Et personnellement, je trouve ça assez désolant parce que du coup, elle est toute seule, ses enfants la pleurent. Sa mère est très, très âgée, comme elle l'a dit, ils vont peut-être se retrouver tout seuls dans pas longtemps, mais bon.
Liberté, égalité, fraternité, c'est le thème des reportages réalisés au cours de cette 3e saison d'Interclasse, le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Les élèves en ont parlé avec Plantu, que l'on retrouve après Angèle, Je veux tes yeux.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Thank you.
c'était Je veux tes yeux et c'est signé Angèle.
France Inter.
Interclass. Les ados au micro.
Interclass.
Les ados font de la radio comme des pros.
Et celui qui va faire de la radio comme un pro, c'est Steven, lycéen à Aulnay-sous-Bois. Bonjour Steven.
Bonjour.
Quel mot de la devise républicaine as-tu choisi avec ton groupe pour faire ce reportage que l'on va bientôt écouter ?
Alors avec notre groupe, on est 7 élèves, on a choisi la liberté. Et notre projet est autour de la liberté d'expression.
Et donc vous avez rencontré ?
Plantu.
Plantu. Est-ce que vous connaissiez ses dessins avant l'interview ?
Personnellement, je les connaissais. David aussi qui est dans mon groupe, mais des personnes comme Rabia ou voire Rachid ne le connaissaient pas forcément et on avait des avis assez différents sur ces caricatures. Enfin, personnellement, je les trouvais assez osées certaines fois, mais dans tous les cas, je pense pas que les caricatures de Plantu visent à jeter le feu sur certains sujets sensibles, mais plutôt de se ridiculiser une situation.
Allez, on écoute le reportage.
Nous avons rencontré le dessinateur Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux, dans les locaux du journal Le Monde où il a son bureau. L'endroit est marqué par sa personnalité où on peut notamment voir beaucoup de dessins, de caricatures et d'affiches. Partout, des livres empilés, des tasses à café, des trophées. Il nous a accueillis de manière très chaleureuse, visiblement content de répondre à nos questions.
Vous avez des profs de dessin dans votre lycée ?
Il nous a tout de suite paru sympathique. Depuis ses débuts dans les années 80, la société a beaucoup évolué. Les attentats ont bouleversé l'ordre des choses. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, est-ce que vous avez changé votre façon de travailler, façon de voir les choses et
Alors, merci pour la question. Ma vie privée, elle a changé, mais ma vie de dessinateur n'a pas changé. C'est-à-dire que les dessins que je faisais avant, je continue à les faire.
Ces dessins ont amené à plusieurs reprises devant les tribunaux. Il a même été mis en examen.
Quand l'avocate, elle me dit à moi... Je vous préviens, dans 5 minutes, la juge va vous dire la phrase « Pour votre dessin, monsieur, vous allez être mis en examen. » Bon, c'est pas drôle. Donc j'étais préparé, même quand j'ai entendu la phrase, quand même, ça fait drôle. Et puis après, elle m'a fait signer un papier pour le procès. Et puis, emporté par les langues, comme je suis dessinateur, j'ai dessiné la petite juge en petite souris, comme ça, à la place de ma signature. Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, là le... ?» Donc elle prend le papier signé avec le dessin et elle dit « Waouh, collector !» J'ai été relaxé.
Le dessinateur préconise également le vivre ensemble.
Quand je fais un dessin avec les trois religions qui dansent, un petit imam, un petit rabbin, un petit évêque, ils sont sous la pluie, les manches des parapluies, c'est des crayons, et puis ils dansent, et puis la vie culturelle va l'emporter sur toutes les formes d'orage, de barbarie et d'intolérance.
Les crayons peuvent aussi nous servir d'armes pour dénoncer la violence du monde.
Le dessin, c'est ma manière à moi de m'exprimer. Vous voyez, quand j'écoute la radio, que je regarde la télé, et que je lis le journal et que je suis d'accord ou pas d'accord, que j'ai envie d'envoyer des tartines de confiture contre mon poste de radio ou mon poste de télé, à la fois je me dis mais pourquoi je fais pas un dessin ? J'ai qu'à le faire raconter en dessin. Et du coup ça me calme. Et du coup moi je me fais du bien là où ça fait mal.
Déjà autour de la table familiale, Plantu avait l'habitude d'exprimer ses émotions au travers des dessins. Et cela n'a fait que se confirmer.
Je dis pas que mon boulot c'est de décevoir tout le monde, mais c'est pas loin. Moi je faisais des dessins un peu vachards, ils trouvent que je les torturais, très bien. Mais à la fois, moi ils savent qu'au bout du compte, d'abord j'ai envie d'humilier personne, mais j'ai envie d'asticoter tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et dès qu'il y en a un qui commence à imaginer qu'il va compter sur moi, je peux vous dire qu'il va être vite d'être déçu.
Dans quelle proportion est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à la liberté d'expression ? Vous pensez que même des personnes qui peuvent véhiculer des messages dangereux doivent avoir le droit de s'exprimer ?
Je pense qu'il y a des gens qui pensent, au bout du compte, qu'il y a deux poids, deux mesures. Dire « Ah oui, alors sur Mahomet, alors on peut faire ce que vous voulez, mais par contre, faire de l'humour sur la Shoah, on ne peut pas. » Et il y a plein de jeunes et d'adultes qui pensent que tout ça, tant qu'on n'aura pas réglé ce deux poids, deux mesures, on ne pourra pas avancer d'un poil.
Le naturel de Plantu nous a frappés ainsi que son enthousiasme. Il nous a accueillis comme si nous étions ses amis.
Chaque fois que j'ai la chance d'avoir des contacts et des rencontres avec des jeunes, vous n'imaginez pas à quel point je vais des fois dans des classes où les jeunes ils pensent que je vais faire un cours ou je vais leur apprendre quelque chose. En fait, c'est moi qui apprends, par vos questions. Merci.
C'était un reportage de David Mabanda,
Rabia Bektas,
Kimberly Abdallah,
Steven Darosa Tavares,
Maëva Kirel,
Rachid Seiss
et Badre Mara.
Merci à tous pour cet entretien avec Plantu réalisé sous la houlette de Patricia Martin. Badre, on t'a entendu au cours de l'interview, t'as l'air très très à l'aise.
Ouais, par contre, je viens de me rendre compte que ma voix, elle est réellement insupportable.
Bon, mais ça, on a toujours un peu de mal à entendre, à écouter sa voix. Dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu as rencontré Plantu ? Tu avais des a priori ou pas ?
Je connaissais pas bien le personnage. Du coup, je pensais que ça allait être un de ces humoristes un petit peu « oui, mais faut pas toucher à tout, quoi ». Genre, il y a des choses dont on ne peut pas rigoler et qui allaient nous faire le coup de déproche avec « peut-on rire de tout, mais avec tout le monde ?» Mais en fait, non, au contraire, j'ai beaucoup apprécié le personnage parce que même si, à vrai dire, c'est les seins, il me laisse un petit peu indifférent, à part quelques-uns, j'aime bien son état d'esprit, en fait.
Steven, tu en penses quoi ? Est-ce qu'on peut rire de tout ?
Bah, il y a certaines personnes qui peuvent être blessées par les caricatures de Plantu. Mais c'est pas pour cette raison que Plantu doit s'interdire de continuer ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, ça le représente en quelque sorte. Mais son but, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'humilier certaines personnes dans une situation, mais plutôt d'apaiser la situation en faisant rire ceux qui regardent les caricatures de Plantu.
Steven, est-ce que pour toi, l'art, c'est un moyen d'expression efficace ?
Bien sûr. Tout simplement parce que avec des dessins, on peut représenter beaucoup de choses sur la société, même si ça peut blesser à quelques moments. Je trouve que c'est un moyen assez utile de représenter les problèmes de la société, que ce soit ridicule ou réaliste.
Badre, comment l'art met en scène la liberté d'expression ?
Bah moi, je trouve que l'art, en fait, c'est la meilleure manière de faire passer une idée, et notamment l'idée de liberté, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand un régime totalitaire arrive en place, généralement, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il met en place un art officiel et qu'il va persécuter tous les artistes qu'il considère comme dégénérés, entre guillemets. Parce que l'art, en fait, justement, au contraire, c'est d'autant plus redoutable parce que ça peut faire passer une idée de manière implicite. Ça va pas être simplement quelqu'un qui va dire « tiens, regarde », mais c'est une histoire dans laquelle tu vas t'attacher à des personnages, etc. Ou alors tout simplement un dessin qui va faire exprimer quelque chose et qui va faire réveiller en nous une idée.
Et est-ce que lorsque l'on parle de banlieue et d'art, tu sais, on fait très souvent allusion au rap, est-ce que pour toi ça reflète une réalité culturelle ou bien c'est un cliché ?
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap, beaucoup plus quand même en banlieue, pas en banlieue, genre en cité. Mais après, moi, je connais aussi des gens entre guillemets bourgeois qui écoutent ce genre de choses. Moi, je n'écoute pas du tout de rap.
T'écoutes quoi ? Tu écoutes quoi ?
Je
rien. Allez,
du
vas-y,
tout.
Assume. Assume.
Ah, voilà, musique russe.
Oui, des trucs en russe, des marches soviétiques et de la musique et des génériques d'animés japonais aussi.
Ok, alors autour de la table, qui écoute du rap ? Bon, je vois que tous les doigts se lèvent.
Un petit peu.
Mambé, dans cette émission, vous faites aussi la programmation musicale. Donc, pour nos amis auditeurs, vous avez encore choisi du rap ?
Oui, c'est ça. C'est parti pour Narcos de Migos. Travel like the narco. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the knob got Diego. Diego. Say hasta luego. Luego. We'll be in rapping kilo. Yeah. Snub nose with potato. Out the jungle, yeah, 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 yeah. This real rap, no mumble, yeah, 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 yeah. My skin black like mumble, yeah, 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 yeah. Got stash spots in Honda, yeah, 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 yeah. Straight out the jungle, oh yeah. Ooh. Bricks in the brick house, yeah. Used to hit listen, go to my house, mama. Straight out the jungle, yeah, 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 yeah. Young nigga don't know none now. Young nigga know too much now. Bow, 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 that'll slow him down. Yeah, yeah. We pick up the hondos, hondo. Then drop him off to Huncho. Huncho. I came from the bando. Bando. Here go the wild. Travel like the narco. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the north got Diego. Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo, yeah. Snub nose with potato. Straight out the jungle, yeah, 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 yeah. This real rap, no mumble, yeah, 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 yeah. My skin black like mamba, yeah, 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 yeah. Got stash spots in Honda, yeah, 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 yeah. Straight out the jungle. Hey. Cold game with the cocaine. Cold. The more money make more rain. Pouring up a pan
blank while I'm back in propane. Point blank range, give a nigga nose range. 100 bricks on the road, take a couple routes. Flush mama house, her man's a Philly couch. I ain't really with the razzle dazzle. Knock him off and then I throw him out the boat paddle. Go to Tijuana, put the kilo on the saddle. Sack him, hit a lick and cop a pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match it with the acres, with the horses in the cattle. Like the narco, narco. Got dope like Pablo. Pablo, cut dope like Pablo. Cut dope, chop trees with the Draco. Draco, on the knock got Diego. Say I still a wiggle. We'll be in rapping kilo. Yeah. Snub nose with potato.
Straight out the jungle. Yeah, 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 yeah. This real rap, no mumble. Yeah, 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 yeah. My skin black like mumble. Yeah, 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 yeah. Got stash spots in Honda. Yeah, 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 yeah. Straight out the jungle.
C'était Narcos de Migos et je peux vous dire que dans le studio, ça danse et il y a des élèves bien lookés autour de cette table, hein, ouais, comme Kevin par exemple. Alors, dis-moi Mambé, c'est qui Migos?
Alors Migos, c'est un trio de trois rappeurs afro-américains. Il y a Takeoff, Offset et Quavo.
Merci Mambé.
France Inter.
Vive France Inter, vive Interclasse.
C'était grave bien et si j'aurais une autre possibilité de refaire cette expérience, je la refais.
Interclasse.
Je me tourne maintenant vers Alassane. Vous avez tourné votre reportage dans un lieu emblématique du pouvoir politique français, c'est...
L'Assemblée nationale.
L'Assemblée où vous avez notamment assisté aux questions au gouvernement, c'était comment?
Eh bien, c'était assez enrichissant avec les députés qu'on voit... tout le temps à la télé, mais ça fait plaisir de les voir en vrai. Et puis, ils sont assez... en fait, ils sont comme nous.
C'est-à-dire
ils ont l'air d'enfants, ils se coupent la parole. Voilà,
un peu dissipés sur les bancs.
Un peu dissipés, même plus que nous, même, un peu. C'était assez bizarre, parce qu'on les voit, on pense qu'ils sont sérieux, voilà quoi.
Donc... Alors, vous avez également rencontré plusieurs personnalités politiques pour réaliser votre reportage. Quel était l'angle?
Au départ, notre thème, c'était sur la liberté de s'habiller comme on veut. Mais c'était trop vaste. Alors, on a raccourci à la liberté de s'habiller comme on veut dans les lieux politiques, les lieux de travail politique.
La liberté vestimentaire à l'Assemblée nationale, un reportage de Mambé, Chloé, Kodou, Lauriane, Delphine, Benoît et Alassane.
17 juillet 2012, Cécile Duflot, ministre du Logement, prend la parole devant les députés à l'Assemblée.
Monsieur le Président.
Allez, écoutez.
Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
Vêtue d'une robe blanche à fleurs bleues, elle est accueillie par des sifflets et des ricanements.
Donc bonjour madame Cécile Duflot, moi c'est Benoît. Déjà je tenais à vous dire que votre robe elle était très belle.
Elle se souvient.
Alors je m'attendais pas du tout à ce que cette robe fasse un quelconque bazar. D'ailleurs on le voit dans l'image, je suis surprise. C'était très brutal et le président de l'Assemblée nationale, il essaye de calmer les gens parce qu'il a eu peur que je craque. Parce que vraiment, il y en a qui ont dit des choses très vulgaires, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Cette robe, elle a été en photo dans des journaux au Liban, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Enfin, elle a été extrêmement vue. Je pense que justement, c'est parce que cette robe avait rien de choquant et qu'elle avait provoqué ce brouhaha. C'était très visible qu'il y avait un problème, pas avec les robes, mais avec les femmes. Et qu'il y avait du machisme en politique. Et donc, pour le coup, je suis finalement contente qu'elle ait eu cette fonction-là pour toutes les autres femmes. Même si sur le moment, c'était désagréable.
Nous sommes allés à l'Assemblée nationale voir si le code vestimentaire avait évolué. Jean-Luc Warsmann est député depuis 22 ans et ancien président de la Commission des lois.
Bonjour.
D'après vous, quel est le style vestimentaire que les hommes et les femmes devraient adopter à l'Assemblée nationale?
Oui, je crois que c'est très clair, hein, c'est dans le règlement de l'Assemblée. Il y a une veste et cravate pour les hommes. Je crois que c'est nécessaire parce que c'est une question de respect des personnes qu'on représente. Et chaque fois qu'il y a eu des volontés d'avoir des autres habits, ça a été des volontés de provocation qui n'étaient pas positives pour l'Assemblée ni pour le pays.
Exemple récent d'une attitude un peu provocatrice.
Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine.
François Ruffin, député de la France Insoumise, est arrivé à l'Assemblée avec un maillot de foot.
Oui, le président de séance a qualifié ma tenue d'indigne et d'irrespectueuse.
Yael Braun-Pivet est présidente de la commission des lois.
Ce qui a été sanctionné, c'est pas tant le maillot de foot en lui-même, mais l'attitude, le message qu'il y avait derrière et surtout la façon de réagir à une interpellation du président de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, c'est plus ça qui était visé dans le vêtement de M. Ruffin que le vêtement lui-même. C'est toujours la même chose, c'est ce que ça signifie, soit intrinsèquement, soit du comportement du député qui va porter certains habits.
Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement.
Selon Yael Braun-Pivet, les temps ont changé. Et ce qu'il s'est passé avec Cécile Duflot ne se reproduirait pas maintenant.
Je pense que ça n'aurait plus lieu d'être, simplement parce que l'Assemblée nationale s'est fortement féminisée et elle s'est fortement rajeunie. Donc ce qui pouvait, il y a encore quelques années, paraître peut-être incongru à certains, en tout cas aujourd'hui, ils sont tellement minoritaires qu'il ne pourrait pas y avoir de telles réactions. Donc ça change tout, cette mixité beaucoup plus importante change les rapports entre les députés.
Nous avons demandé à Cécile Duflot, qui a quitté récemment la politique, comment elle réagirait aujourd'hui face au machisme de certains députés.
Si je devais le refaire, peut-être que je dirais autre chose dans l'Assemblée. J'ai juste dit, mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs visiblement, parce que j'étais très agacée, mais j'ai pas eu une vraie répartie. Enfin, je les ai pas séchés sur place. Donc peut-être que si j'étais préparée à l'avance, je saurais mieux quoi dire, je saurais mieux comment réagir. Mais non, je regrette pas, parce que peut-être que cette robe, elle aura fait un peu, contribué à faire un peu avancer les choses.
Un reportage de Delphine Lim.
Benoît Belhadj.
Gera Alassane.
Théoué Chloé.
Bakodou.
Mambé Cissé.
Gersin Lauriane.
Pour Interclass.
Bravo pour ce reportage. De votre salle de classe, vous êtes passé à la salle des quatre colonnes où les journalistes interviewent les députés. Puis vous vous êtes assis donc à votre tour sur les bancs lors des questions au gouvernement pour être aujourd'hui avec nous en studio. Alassane, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ?
C'était très drôle parce qu'ils se coupaient souvent la parole. Et surtout, c'est très inconfortable de s'asseoir parce que c'est très...
Au sein de l'hémicycle ?
Oui, c'est petit, c'est étroit et... Ça fait mal aux genoux, quoi.
Alors, Chloé, avant d'aller à l'Assemblée nationale, est-ce que tu ressentais de la distance par rapport à l'univers du politique ? Et est-ce que le fait d'aller sur place a un petit peu aboli cette distance ?
Oui, je ressentais de la distance par rapport à la politique parce que les hommes politiques, c'est toujours eux qui décident, entre guillemets. Donc, nous, les jeunes, quelquefois... On ne nous prend pas en considération et on n'a pas notre mot à dire vu qu'on ne peut pas encore voter. Mais après être allé à l'Assemblée, je me suis dit que je devais plus m'intéresser à la politique parce que dans les prochaines années, ce sera à nous de voter, ce sera à nous de nous faire entendre.
D'ailleurs, je me souviens très bien même que lorsque tu posais tes questions et ta détermination fait qu'on s'est tous dit que tu serais probablement peut-être député un jour.
Alors, je vais vous annoncer que ça n'arrivera pas. ça m'intéresse pas la politique dans cet angle-là, mais un autre métier, oui, peut-être.
Alors, Chloé, comment tu expliques la défiance qu'il y a à l'égard de la classe politique ?
Je pense que c'est parce que tout le monde pense que les politiques nous mentent et ils font pas tout ce que tout le monde veut. On peut pas faire tout ce que tout le monde veut, ça c'est impossible. Parce que dans le passé, les gens ont été déçus par certaines décisions. C'est pour ça que maintenant, on se méfie beaucoup de ces hommes-là.
Interclass.
Merci Chloé. Après la fraternité et la liberté, un reportage sur l'égalité, et en particulier l'égalité des chances dans les grandes écoles, en se posant une question, est-il possible, quand on vient de la campagne, d'intégrer une grande école aussi facilement qu'un élève parisien ? Jeanne, avec Alicia, Stéphanie, Yasmine, Hilal, Souila, Djadjima et Anne-Marie, vous êtes allés faire votre enquête à Paris, à Sciences Po, pour savoir si l'école était à ce point accessible à tous.
Nous abordons un sujet qui concerne les jeunes, l'égalité d'accès aux études supérieures dans un lieu prestigieux.
Suivez-nous au 27 rue Saint-Guillaume dans le 7e arrondissement à Paris.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis une élève de première L et je vais interviewer mademoiselle Lina Bouéry.
Lina Bouéry, étudiante en deuxième année à Sciences Po et en bicursus à la Sorbonne en histoire à Paris 4.
Sciences Po.
Quelles ont été les difficultés pour pouvoir intégrer Sciences Po ?
Déjà, la difficulté, ça a été de préparer le concours. Et ensuite, la seconde grosse difficulté, ça a été de déménager à 900 km de chez soi. Ça se prépare. Il faut aussi prendre en compte les coûts que ça peut engendrer. Et il a fallu aussi que j'ose présenter une grande école, qui plus est sur Paris. Et c'est vrai que c'est, je pense, le moins évident quand on vient de milieu rural, parce qu'il y a un manque d'informations sur les études post-bac pour intégrer Sciences Po. J'ai fait une prépa pendant l'année du bac en ligne. C'est très significatif de l'autocensure un peu qu'on peut avoir quand on est excentré de Paris. Il y a des élèves, tout simplement, qui pensent qu'ils sont illégitimes, en fait, à se présenter ou à candidater à tel cursus.
Nous allons maintenant écouter l'avis de Léane Lecointe. Léane est étudiante en deuxième année à Sciences Po. Elle est aussi présidente de l'association Scoubidou. Cette association propose du soutien scolaire, mais aussi des projets culturels. Nous lui avons demandé si les actions de l'association concernent les zones rurales.
On est plutôt sur des élèves qui sont, et des centres en fait, qui sont à Paris. Ce serait vraiment intéressant si on avait plus de monde et plus de moyens d'élargir les missions pour atteindre un public en zone rurale.
Pensez-vous que cette association réduira davantage les inégalités dans l'accès à l'éducation ?
Je l'espère. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du dynamisme de ce que font les autorités, les pouvoirs publics, des initiatives qui sont prises. Interclasse, c'est vraiment un beau projet et je pense que c'est en encourageant des initiatives comme ça qu'on pourrait réduire les inégalités dans l'accès à l'éducation.
Autre association, Prométhée. Celle-ci contribue également à l'égalité des chances et à l'accès aux études supérieures. Marianne Lewandowski, chargée des partenariats et relations publiques de l'association.
On lutte contre les inégalités au niveau scolaire et de manière plus générale. On a mis en place ce qu'on appelle les entretiens de l'ambition qui vont avec la devise de l'association qui est rêver, oser, réussir. Parce qu'on pense qu'il faut lutter contre cette forme de censure qui s'est instaurée. J'ai habité dans un tout petit village d'Auvergne, donc qui s'appelle Châtel-Guyon. Et quand je suis arrivée dans cette école, j'ai eu des notes catastrophiques parce qu'il y avait un écart en fait entre mes deux établissements. Et ce jour-là, mon professeur, qui est venu me voir à la fin du cours, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Tout ce que tu vis et tout ce que tu vas vivre, ça va dépendre que de toi. Aujourd'hui, je te propose de t'aider. Je viendrai si tu veux à la fin des cours. Tu auras une heure en plus. Tu travailleras. Tu le fais pas. C'est toi qui choisis. J'ai accepté et au final, j'ai eu des notes très très bonnes qui m'ont permis d'aller dans un bon collège, un très bon lycée. Et ça peut paraître ridicule, c'était mon professeur de primaire. Mais je vous le dis, si j'ai réussi Sciences Po, c'est grâce à lui. Et c'est pour ça, dans la continuité, que j'ai choisi de m'engager à Prométhée. On n'est pas là pour faire le travail à la place des lycéens. On est là pour leur dire, vous pouvez réussir, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de réseau. On met tout à votre disposition, on vous aide, mais ça vient de vous.
Reportage à Sciences Po à Paris de
Amalor Pavadas Alicia,
Yakalombo Stéphanie,
Goufor Yasmine,
Ilalu Urka,
Souila Ben Malek,
Wage Jajima,
Anne-Marie Jehan.
Pour Interclass.
C'était un reportage à Sciences Po Paris avec l'aide de Franck Olivard, attaché de production de l'émission La Marche de l'Histoire. Jehan, est-ce que ce reportage t'a donné envie d'aller à Sciences Po ?
Pas vraiment, car il ne correspond pas vraiment à mes projets. Car moi, personnellement, j'aimerais bien faire hôtesse de l'air.
Et est-ce que ça t'a paru accessible ?
Je ne pense pas que Sciences Po soit très accessible pour moi, car c'est une université très sélective. Mais je pense quand même que certains élèves de mon lycée peuvent y accéder.
Est-ce que c'est important, l'école, pour toi ?
Oui.
Pourquoi ?
L'école, ça amène à la réussite. On apprend beaucoup de choses. Même si on ne fait pas toujours ce qu'on aime, on apprend quand même des choses.
Chloé, c'est quoi pour toi un bon prof ?
Pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui aime son travail, qui aime ce qu'il fait et qui le transmet à ses élèves. Si un prof, il est là, il nous dit bonjour comme ça, avec les yeux qui montent au ciel ou ça se voit qu'il est fatigué, nous, on n'aura pas envie de travailler après. Donc, alors qu'un prof qui est dynamique, ou qui est souriant, tout de suite, on accroche.
À quoi pourrait ressembler une école idéale ?
Une école où on commence pas à 8h, mais minimum 9h30.
Non.
Et une école où on choisit ses matières. D'ailleurs, c'est peut-être une réforme qui va arriver. Donc, ce serait mieux pour les élèves, pour être plus à l'aise et pour directement se diriger vers le métier qu'ils veulent faire.
Badr, à quoi ressemblerait une école idéale pour toi ?
Pour moi, une école idéale, ce serait une école inspirée du système allemand, où on a cours seulement le matin, mais où on a moins d'heures de cours, mais au final, ils ont quand même des meilleurs, ils sont quand même beaucoup plus productifs là-dessus, ils ont quand même un meilleur système scolaire que nous. Mais ce serait aussi une école dans laquelle on enseignerait ça, et ça depuis le collège au moins, c'est l'art de l'esprit critique. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la vie, d'avoir de l'esprit critique, mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas.
Alors là, je te rejoins complètement. Kevin, à quoi ressemblerait l'école idéale pour toi ?
Pour moi, c'est une école dans un parc. C'est une école ouverte où tout le monde pourra apprendre ce qu'il veut. Si par exemple, il y a des cours qu'on n'aime pas, eh ben, on n'est pas obligé d'y aller. Et ça pour moi, c'est magnifique.
Et c'est quoi, toi, tes projections d'avenir ?
Moi, dans l'avenir, j'ai eu plusieurs objectifs. D'abord, je voulais être footballeur. Ensuite, j'ai bien aimé le journalisme, donc je voulais devenir journaliste. Aussi, steward. Parce que j'aime bien voyager. En plus, ça permet d'apprendre des nouvelles langues. Parce que c'est ça, moi j'aime bien. J'aime bien cet univers-là.
Alors moi, je vais inviter tous les auditeurs à aller très vite sur le site de France Inter pour voir quand même Kevin qui est très très looké aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire, Kevin, comment tu es venu pour enregistrer cette émission ?
Alors aujourd'hui, je suis vêtu d'un ensemble Nike magnifique, il est gris, avec des petites lunettes d'un style américain.
Et des lunettes de soleil, hein, oui, donc dans le studio noir de France Inter.
Effectivement. Et j'ai aussi une teinture bleue, c'est ce qui rajoute une petite touche esthétique à mon style vestimentaire.
Et la teinture bleue, tu peux préciser où elle est ?
Elle est sur mes cheveux, pas sur toute la tête, mais au niveau des pointes précisément.
Et ça aurait été parfait sur scène avec Sopico le 20 mars lors des états généraux.
Ouais, c'était dommage par contre. J'avais bien aimé en plus ce jour-là, je suis monté sur scène, j'ai pu danser, exprimer ma joie quoi.
Sympa.
L'école, c'est l'affaire de tous. C'était le titre, justement, des états généraux d'Interclasse le 20 mars dernier. Et c'est donc le rappeur Sopico qui a clôturé cette journée. On va l'écouter maintenant, le live qu'il a fait ce jour-là, avec une spéciale dédicace à Kevin avec ses lunettes de soleil et ses cheveux bleus. Et c'est parfait pour l'été. Il était, comme il vient de nous le dire, monté sur scène pour danser avec lui. Et c'est un moment où nous avons tous eu beaucoup de frissons.
Dans cette vie, je suis toujours en avance. Plan twister avec ta baby Lova. Une rime pelée, headshot, on l'avoue. Dans la tempe, et puis elle sort dans la bouche. Yeah. Tellement loin qu'il faudrait plisser les yeux. Tu me vois pas, même si je suis sapé clair. Quand t'as mal, personne pour sa bébé. Depuis que je t'ai dit, supprime que ça bégait. Tu fais des moves en équipe ou en solo. Pour qu'un qui t'a ma faute du monde et de la souplesse en vrai. Tu stores, tu génial que ça sonne. Et je vais te saigner d'une et MD, on fait ça swingin'. Yeah. Petite dans le proba militaire, fais le calcul de probabilité. Yeah. Je vois ce petit des étoiles dans les yeux, pourtant je lui demande trop pas de m'imiter. Baby, je mens pas, tu trouves pas de love ici. Personne trouve ça ici, tout le monde consomme ici. Cette ville veut ta peau, mon petit d'être vive, jeune capot. Je t'assure, je sais pas, pied sur terre, pas sur les épaules. Baby, je mens pas, tu trouves pas de love ici. Personne trouve ça ici, tout le monde consomme ici. Cette ville veut ta peau, petit d'être vive, jeune capot. Je t'assure, je les épaules, sur terre, pas sur les épaules.
Ça va Paris ou quoi?
Trace dans le Kirby. Boy t'inspire et crache comme Kirby. J'roule en doobie dans le centre-ville. J'fais des loopings devant Derby. Des pièges, des bosses, des coups durs. J'suis fier de mes proches, mes coutumes. Mes frères, mes potes, c'est tout vu. Ils disent que ce gosse est foutu. Ce gamme intense dans la fosse. Jeune et so job fort donne la dose. Immense nuage de fumée noire. Un tempête de pull up, je te parle depuis l'étoile. J'ai mis le mode série Sawa, entre en série Salam. Dès que j'arrive, j'suis dans Chiri Sawa. Kelly Dash par les fers ou VOST. Kelly Dash avec l'argent guéri. Pas de SK, jeune et so dans un plan d'élitari. J'suis en demi-sile en la France et l'Italie. Les mecs, 7-5 vaisseaux de nos familles. J'ai vu le médecin béton, j'ai vu 3 millénaires. Rolex à tes poches, j'veux la rarie. Mais même si ton ex a béton, j'vais pas crari les mecs. J'vais faire sans les grands, laisser mes anges. Chaque fois, ouais, c'est les anges, ça te fuck. Ça, j'suis présent, j'décroche, mais j'vous laisse en chien fuck. De côté, c'est pas comme Antoine. Ça.
Hey, c'est toi, Paris.
On est avec le frérot Kevin sur scène, faites-lui du bruit. Oh. Je suis fier, mes proches, mes coutumes, mes frères, mes potes, c'est tout vu.
Kevin,
c'est ce qu'on s'est foutu.
T'es avec nous, quoi.
Je garde ma danse dans la fosse, jeune et soldier fort dans la dose. Hey. Baby, je mens pas, tu trouves pas de love ici. Personne trouve ça ici, tout le monde consomme ici. Cette ville veut ta peau, on dit d'être vive, j'ai de capot. Je t'assure, je les épaules, sur terre, pas sur les épaules.
baby, je m'en vas. Tu ne trouves pas de love ici. Personne trouve ça ici. Tout le monde consomme ici. Yeah, yeah. Cette vie veut ta peau. On me dit d'être vif, je capot. Je t'assure, je les épaules. Pieds sur terre, pas sur les épaules. Hey, baby, je m'en vas. Hey, trace dans le cœur, bitch. Trace dans le cœur, trace dans le cœur. Boy, t'inspire et crache comme Kirby. Hey, hey, je roule un doobie dans son Kirby. Hey, yeah. Je fais des loupings devant Kirby, ouais. Merci à vous, merci à lui.
Ouais, un petit bruit pour le collègue là.
Interclasse sur France Inter.
C'était Sopico venu participer aux états généraux d'Interclasse au cours desquels nous avons parlé de votre vision de la société. Alors à la rentrée prochaine, vous serez en terminale. C'est un moment fort où l'on se projette beaucoup. On imagine les études que l'on va suivre, le travail que l'on va chercher. Et j'aimerais bien, en cette fin d'émission, que l'on parle un petit peu de votre vision de la société. Aujourd'hui, en tant que jeune, quel rôle vous avez à jouer dans cette société, Chloé?
Moi, je pense que notre rôle, c'est de faire changer les mentalités parce que les plus âgés, ils ont toujours cette image de l'ancien temps. Et je pense qu'il faut faire évoluer les choses.
Mais alors, pour faire changer les choses, il faut s'impliquer aussi. Est-ce que vous vous impliquez ?
Avec ce projet, par exemple, oui, c'est pas nous qui l'avons bâti au départ, mais on s'est vraiment impliqué pour le faire réussir, pour que ça nous plaise et que ça vous plaise à vous aussi.
Et à travers les reportages, donc, de passer des messages aux auditeurs?
Oui, avec les différents reportages, parce que ce sont nos reportages et les sujets qu'on a choisis, on voulait se faire entendre à travers ces reportages.
Léa?
Ce que je voudrais le plus, c'est changer le regard des gens qui pensent que les banlieues du 93, même le 93, c'est un endroit où il ne faut pas aller. Je me souviens que quand j'étais plus petite et que je demandais à mes parents si je pouvais faire ce métier-là, ils me disaient souvent « Oui, mais nous, on est très mal vus dans le 93 parce qu'il y a souvent des problèmes. » Et en fait, maintenant que j'ai 17 ans, je réalise que c'est vrai, il y a tous ces problèmes-là. Mais si on ne fait pas d'efforts pour les changer, ça continuera. Donc ce que je voudrais, c'est faire des démarches, je sais pas moi, voter des lois, tout faire pour que le regard des gens change sur le 93 afin qu'on ait déjà qu'on soit mieux vu par les personnes, parce que, enfin voilà, moi ça me fait mal, je suis fière d'habiter dans le 93, même si, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai, c'est dur de quitter le ghetto, façon de parler, c'est dur parce que du coup on est fiers. Moi je suis fière d'y habiter et j'ai pas envie de le quitter parce que du coup je me dis que s'il y a pas de personnes comme moi, on ne pourra pas faire avancer les choses et changer le regard des gens.
France Inter, Interclasse.
Plantu disait tout à l'heure qu'il apprenait toujours beaucoup au contact des jeunes. Alors j'aimerais savoir si c'est le cas également pour Patricia Martin et Vincent Pellegrini qui ont accompagné les élèves pendant une année. Patricia, vous avez été carrément séduite par la classe.
Complètement séduite, enthousiasmée par eux. Et ce qui est extraordinaire, et ça c'est une leçon de vie qu'ils m'ont donnée cette année, je parle vraiment pour moi, c'est que individuellement, ils ont tous des personnalités très fortes, mais qu'ils ont su former un vrai groupe, soudé, qui a travaillé ensemble. Et ça, eh ben, c'est pas tous les jours que ça se rencontre.
Vincent Pellegrini, vous étiez à l'Assemblée nationale avec eux. Quel souvenir vous garderez de ce moment et en particulier de l'année écoulée?
Oui, je remonterai peut-être un peu avant le tournage à l'Assemblée nationale parce que très vite, dans le groupe que j'ai eu la chance d'animer, il n'y a eu pas de passivité. Il y avait vraiment un investissement de tous les lycéens et ça s'est ressenti tout au long de l'année, particulièrement dans cette journée à l'Assemblée nationale où ils ont été très à l'aise, très impliqués et visiblement très intéressés par le sujet.
Eh bien, merci à vous, merci pour votre enthousiasme et votre détermination. Merci également aux élèves pour cette année d'interclasse et puis aux enseignants Ariane Lacasse, Delphine Rancillac et Rémi Magnani. Un grand merci à Jean-François Grasser, le chef d'établissement du lycée Voilôme d'Aulnay-sous-Bois. On salue aussi nos partenaires, le Clémy, la Fondation de France, Netia et l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine et les étudiants qui nous ont accompagnés. À la réalisation de cette émission, la rieuse Sonia Leglen, à ses côtés chargée de la production, l'indispensable Fanny Léonore Crouzet, à la technique Florent Layani, notre chaton à nous, car c'est le sosie du chanteur qui porte le même nom. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même studio, même énergie, même sourire, et d'ici là...
Enjoy!